France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Pendant de nombreuses années, il a été l'une des grandes voix de la critique rock et du journalisme musical en France et sur France Culture en particulier. Alain Dister, disparu en 2008, a laissé une œuvre considérable à la croisée de l'écriture, de la photographie et donc de la radio. En 2005, dans un numéro de Fort Intérieur, que vous allez entendre dans quelques instants, il revenait longuement sur la naissance de sa vocation. Vocation qui trouve son origine dans une découverte précoce des musiques américaines. Voyage, pérégrination, expérience, mysticisme. C'est tout un monde, tout un passé, une certaine Amérique mythique qui nous est contée par Alain Dister dans cette émission. Une Amérique qui était alors une porte ouverte au plaisir, dont quelques échos parvenaient jusqu'en France par la musique et en particulier par le rock. Mais laissons donc la parole à Alain Dister au micro d'Olivier Germain-Thomas dans cette émission, diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 mai 2006.
Fort Intérieur avec Alain Dister, une émission d'Olivier Germain-Thomas. Rebelles nous étions, mais avec classe. Écrivez-vous, monsieur, d'un rock'n'roll attitude. Un mariage de textes et de photographies publié aux éditions Marval en 1997. Donc, marginalité et esthétisme. J'ajouterai d'ailleurs la lucidité qui vous a empêché de sombrer. Donc cette marginalité et ce sens de la beauté vont être les mamelles de votre formation, Alain Dister. Avec cet America, America qui résonne en vous comme un mythe salutaire. Naissance à Lyon pendant la guerre, le Vésiné, un lieu dont vous ne gardez pas un souvenir exceptionnel, la Côte d'Ivoire, Madagascar pour votre coopération militaire, un premier saut aux États-Unis durant l'été 66, puis à nouveau le Nouveau Monde de 1967 à 69. La route d'est en ouest, d'ouest en est, plusieurs fois, la photographie, la revue Rock and Folk, le retour en Europe, l'œuvre qui se déploie dans trois directions, celle de l'origine d'ailleurs, la photographie, le journalisme, l'écriture. Citons vos derniers ouvrages, Couleur 60s, publié aux éditions du Collectionneur en 2006, la réédition la même année, c'est en 2006, de Oh, Happy Days, vos carnets américains, sur cette aventure de 66 à 69, donc qui viennent d'être édités chez J'ai lu. Grateful Dead, une légende californienne, chez Castor Astral en 2004. Il était une fois les Beatles, Hachette Jeunesse 96, ou Culture Rock, les Essentiels Milan 96. Si on regarde vos expositions de photographie, on peut en compter à peu près une quarantaine. En solo, la dernière, encore un mot d'anglais, un titre en anglais, Riding in the Wind, les années de Jimi Hendrix, qui a été récemment présenté chez Agnès B. et qui actuellement, cher monsieur, fait le tour du monde. La voici à Hong Kong et Tokyo l'attend avec impatience. Alors, Alain Dister, cette vie avec comme muse la musique rock, les images et les mots, a reçu une sorte de premier saut lorsque vous étiez encore un petit garçon en 1944, quand des soldats américains se sont installés chez vous. Ça a été un moment fondateur pour vous.
C'est très exactement le 25 août 1944, lorsque l'armée américaine de libération est arrivée aux portes de Paris et s'est arrêtée aux portes de Paris pour laisser entrer l'armée Leclerc dans Paris et officiellement libérer Paris. Et donc, ces soldats, qui étaient très nombreux, avaient des billets de logement. Et comme nous avions, ma famille, nous avions un pavillon au Vésinet, avec assez de place sans doute pour en héberger quelques-uns, nous en avons donc accueilli, je ne sais plus combien ils étaient, 4 ou 5, qui travaillaient non pas dans des unités combattantes, mais dans des services d'intendance. Ce qui veut dire qu'au lieu de suivre l'armée dans la reconquête progressive de la France et ensuite dans l'occupation de l'Allemagne, ils sont restés chez nous jusque pratiquement à la fin de la guerre. Donc pendant plusieurs mois, ces soldats américains qui étaient venus les bras chargés de cadeaux, pour les parents d'abord, les poulets congelés, les banilons, les cigarettes, etc. Mais aussi pour les enfants, avec des jouets en plastique. Et pour tout le monde, des disques. Des disques en carton souple, de couleur kaki, comme les équipements militaires. Et ces disques, c'était leur musique. C'était la musique américaine variété de l'époque. Bing Crosby, les Andrew Sisters, des gens comme ça. Et puis du jazz, bien entendu. Glenn Miller, surtout. Et donc, il y avait dans ma famille des gens qui aimaient beaucoup cette musique et on dansait fréquemment à la maison. Il y avait quand même une énorme différence entre cette période que l'on vivait et celle qui avait précédé, donc de l'occupation, des restrictions, des bombardements aussi, parce que la maison étant située pas très loin d'un pont stratégique, nous avons été souvent bombardés. Donc il y avait une sorte de bonheur extraordinaire qui fait que l'arrivée des Américains, la langue qu'ils parlaient, tous les jours, ils s'adressaient à moi en anglais, dans leur langue. C'était pas des francophones. Donc, ils me racontaient des berceuses en anglais. Et leur musique, tout cela, pour moi, était synonyme de bonheur et de libération.
Et vous pensez vraiment que si ensuite vous avez choisi l'Amérique comme terre d'élection, cela serait dû à cet épisode ?
Non, pas du tout. D'ailleurs, la musique est un des aspects de ma sphère d'intérêt, je veux dire, qui est arrivé même accidentellement plus tard, vers le milieu des années 60. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé les musiques populaires américaines et le jazz, mais j'en ai fait une profession, si on peut dire, de critique ou d'historiographe que beaucoup plus tard.
Alors ensuite, vous allez découvrir avec vos parents, quand vous avez 10 ans, donc là nous parlions d'un épisode où vous aviez 3-4 ans, donc quelques années après, vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire. Donc à nouveau, le contact avec une autre culture qui vous ouvre des horizons, j'imagine.
Oui, c'est-à-dire que c'était un peu les montagnes russes. Hein. D'un côté, t'as une vie familiale en banlieue, donc un petit peu repliée sur la famille, l'école qui était à 50 mètres du domicile, etc. Donc on ne sortait pas beaucoup, bon, on allait en vacances dans le Massif central, donc tout ça restait très franco-français. Et puis d'un seul coup, effectivement, mon père est nommé fonctionnaire colonial donc en Côte d'Ivoire. Un an plus tard, nous le rejoignons en bateau, car à l'époque, on voyageait en bateau pour se rendre en Afrique, et en première classe, ce qui n'était pas désagréable, parce qu'elle nous donnait accès à tout le bateau, donc un immense bonheur d'enfant de pouvoir aller du haut en bas, de fond en comble, dans un navire qui croise au large de la côte occidentale d'Afrique, des escales qui sont d'autant d'émerveillement, notamment à Tanger, que j'ai retrouvé 20 ans plus tard, qui semblait n'avoir pas changé du tout. Et puis Abidjan, où nous avions un bungalow pas très loin d'une communauté africaine, où il y avait beaucoup de musique, la nuit surtout, des tambours, des chants, et notamment une congrégation, je ne sais pas si c'était catholique ou protestante, en tout cas il y avait un chœur de femmes dans cette église qui chantait des qu'on peut considérer comme du gospel, dans de grosses prétentions, mais alors de manière très brute, c'est-à-dire vraiment dans sa terre d'origine. Et ça m'a bouleversé. Et je crois que vraiment à ce moment-là, j'ai découvert d'un seul coup la puissance des voix noires, la puissance de la musique noire qui nourrit ensuite évidemment tout le jazz, le blues et le rock'n'roll.
À nouveau la musique, Alain Dister, mais il y a eu aussi dans cette rencontre avec l'Afrique une rencontre avec une autre culture, avec une autre conception du monde, avec les pouvoirs chamaniques de certains sorciers, ou bien alors vous étiez confiné dans votre famille et vous n'aviez pas forcément de relation avec cet aspect de l'Afrique.
Il y avait les deux. Bon, étant fils de fonctionnaire colonial, j'étais évidemment
assez protégé, quand même.
Très protégé, oui. Très protégé, avec évoluant dans un cercle relativement restreint. Mais comme en même temps j'étais scout, on partait, donc là on échappait justement à cet univers et on partait dans, en forêt, on partait dans la, ce qui était la grande forêt vierge de Côte d'Ivoire, autour d'Abidjan, et là on partait en éclaireur, dans le sauvage, comme on dit au Canada, et il y avait, c'était un univers magique. Bon, d'abord on était très très grande présence animale, les cris des singes, des oiseaux, etc. C'est une forêt très très habitée. La présence des gens qui habitaient là aussi, dans les villages, etc. Et puis, oui, d'avoir rencontré comme ça, ici et là, un sorcier, enfin un féticheur, c'est-à-dire l'homme médecine du village avec ses gris-gris, etc. Bon, tout un univers donc qui était très très en marge évidemment de l'univers colonial. D'ailleurs, dont l'univers colonial se méfiait beaucoup, puisqu'il interdisait, à cette époque-là, en tout cas, à ce monde africain, de pénétrer son cercle. Alors là, je parle du bâtiment, du lieu où ils se réunissaient.
Mais vous étiez attiré par ces formes de relations au monde.
Ah, bien entendu, je trouvais ça beaucoup plus fascinant que ces fonctionnaires assis autour d'une piscine en train de comploter je ne sais quoi.
Alors, on va vous retrouver dans des terres étrangères quelques années après, lorsque vous accomplissez votre service militaire dans le cadre de la coopération, ce qui était possible à l'époque, et vous voici à Madagascar. Donc, dans une culture qui se rapproche d'une certaine manière de celle de l'Afrique, mais avec aussi des influences de l'Inde, donc une nouvelle ouverture encore, en quelque sorte une troisième ouverture.
Oui, en plus, le voyage vers Madagascar s'est fait également en bateau, donc le long de la mer Rouge, la corne de l'Afrique, la côte orientale d'Afrique.
Là, c'est vraiment des plaisirs disparus, là.
Pardon ?
C'est vraiment des plaisirs disparus que vous évoquez.
Oui, bien sûr, mais il y a ce goût du voyage aussi qui revient constamment, et de la découverte, et d'être plongé dans des univers totalement différents du mien, et d'une manière extrêmement naïve, très ouverte. Et donc je me retrouve effectivement à Madagascar, bon, coopérant, faire un boulot lambda, mais avec une bande de copains autour de moi qui sont des fous de fans de Beatles, ils adorent ça, et l'un d'eux voyage gratuitement par avion parce que son père occupe de hautes fonctions dans la compagnie aérienne locale, donc quand il sort un nouveau 45 tours de Beatles, il se précipite l'acheter à l'île Maurice au Kenya, il fait l'aller-retour dans la journée ou en 24 heures, et nous ramène la galette toute chaude. On est d'une certaine mesure bien en avance par rapport à la France qui elle est
pied à Madagascar et un pied dans la modernité de la musique qui se faisait en Angleterre à ce moment-là.
Oui, parce que la musique malgache est fascinante en même temps, le mpila là-haut, la musique de village qu'on
retrouve... Mais c'est pas celle dont vous parliez là.
Non. Non, c'est une musique dans laquelle je trouve néanmoins des éléments proches de musiciens de free jazz comme Ornette Coleman, par exemple. Je retrouve la même musique. Je pense que Coleman a dû laisser traîner ses oreilles par là, comme beaucoup de musiciens de jazz ont laissé traîner leurs oreilles justement vers une musique africaine d'origine ou malgache. Et cette musique me fascine. Et il y a effectivement aussi à Madagascar un univers des esprits. Qui est très présent, avec des un peu menaçant en même temps, avec beaucoup de lieux interdits, de lieux sacrés qu'il faut contourner, qu'il faut surtout pas affronter. Il y a aussi un univers animal très riche dans les forêts, etc. Enfin, je parle de l'époque où j'y étais, ça a peut-être un peu changé. Donc c'était vers 1964, par là. Et donc cet univers-là aussi m'impressionne beaucoup, parce que je retrouve cette dimension que j'avais éprouvée en Afrique, pas seulement d'ailleurs en Côte d'Ivoire, mais plus tard dans d'autres pays d'Afrique, en Centrafrique et au Niger.
2 ans après, on va vous retrouver en Amérique, d'abord pour un court séjour durant l'été 66, et puis, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ensuite vous allez passer pratiquement 2 ans, de 67 à 69 aux États-Unis, avec énormément d'allers-retours entre la côte Est et la côte Ouest, que vous accomplissez d'ailleurs souvent assez rapidement, puisqu'il s'agit, c'est un moyen de transport que utilisaient beaucoup les jeunes à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, je n'en sais rien, de convoyer une voiture depuis, en général, de la côte Est vers la côte Ouest, de gens qui ne voulaient pas faire les 5000 km de la traversée et qui confiaient à des jeunes le soin de conduire leur voiture dans la belle Californie où ils s'étaient installés. Et alors, vous avez tenu un journal qui a été récemment réédité dans la collection J'ai lu, et qui s'intitule « Ho Hippie Days », qui sont des carnets donc, de ce premier voyage et du deuxième voyage. J'ai trouvé une écriture mûre et réfléchie. Vous avez vraiment respecté les carnets que vous avez tenus à l'époque ou il y a eu ensuite le travail d'un écrivain plus mûr pour les reconstituer?
Il y a des passages entiers de ce livre qui sont littéralement la copie, mot pour mot, à la virgule près, de carnets que j'ai tenus épisodiquement durant ces années sur la route aux États-Unis.
Et le reste, alors vous avez rempli les trous ensuite?
J'ai rempli les trous à l'aide d'autres documents, parce que je n'ai pas cessé de faire des photographies. Donc j'ai des planches contact de ces images où on voit les petits rectangles noirs et blancs qui se suivent et qui font comme une sorte de journal également, mais qui a décrypté autrement.
Parce que l'écriture est très précise. Les noms propres sont là, les dates sont là, donc on a vraiment l'impression de quelque chose qui aurait été tenu jour après jour, ce qui n'a pas été complètement le cas, si je vous entends bien.
Non, je suis très attaché à la précision. Mais c'est vrai que ça contredit ce que disait Bill Graham, qui était un grand organisateur de concerts dans les années 60. Il disait que si vous vous souvenez des 60s, c'est que vous n'y étiez pas vraiment. Bon, moi, j'ai reconstitué ces années 60, effectivement, à partir de mes carnets, à partir de mes dessins, à partir de mes photographies, et à partir des rencontres de gens qui avaient vécu ces années-là, après, c'est-à-dire qu'à partir de 1996, par là, j'ai fait de manière un peu systématique un travail de retrouvailles des gens qui avaient partagé cette aventure avec moi, je les ai retrouvés pour la plupart.
Voilà, c'est ça, donc il y a les deux aspects. Il y a ce qui est reconstitué et il y a ce qui est vraiment vécu en direct. D'ailleurs, on ne voit pas la différence quand on vous lit. Enfin, peu importe, moi, ça m'intéressait de voir la technique. L'important, c'est ce qui s'y passe et vous avez vraiment l'impression, quand vous y arrivez en 66, quand vous y retournez en 67, qu'un nouveau monde est en train de se créer et que l'essentiel de ce qui se fait de nouveau sur Terre se fait là. Ça, c'est une impression qui vous a saisi tout de suite.
Oui, à la suite d'une rencontre tout à fait accidentelle. Parce que j'étais parti aux États-Unis à l'été 1966 avec l'idée de faire des portraits de musiciens de jazz pour une revue qui allait démarrer quelques mois plus tard, qui s'appelait Rock & Folk. Bon. Et j'avais envie de faire des photos de musiciens, donc j'ai fait effectivement des photos de musiciens, mais tout de suite en arrivant, je suis tombé sur l'émergence de cette culture qui prenait la suite de celle de la Beat Generation et qui en était en fait un petit peu l'enfant. Et en faisant de l'autostop sur la côte ouest américaine, du côté de Big Sur en Californie, donc ça c'est quand même déjà un petit peu mythique, donc je tombe sur des deux filles qui me prennent dans leur voiture. Et miraculeusement, ces deux filles étaient proches à la fois de gens de la Beat Generation, des amis de Michael McClure, qui fait partie de la San Francisco Renaissance, du mouvement poétique de la côte ouest, et de la Family Dog, qui était la communauté donc de hippies en plein développement et qui organisait des concerts avec les premiers groupes de l'époque, c'est-à-dire Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janis Joplin, etc. Donc, d'un seul coup, par le plus grand des hasards, j'étais plongé dans le bain.
Donc, ce qui caractérise ces époques, c'est l'importance de la musique. D'abord, effectivement, ça correspond à ce que vous recherchiez en tant que photographe et en tant qu'amateur aussi de cette musique, l'importance de la musique et cette idée de recréer dans les relations entre les hommes, mais beaucoup entre les différents hommes, femmes, femmes, hommes, de recréer quelque chose de totalement différent, voire à l'opposé de ce qu'était la société américaine de l'époque. Il y a donc une espèce d'immense utopie qui se met en mouvement, dans laquelle vous plongez avec joie et heureusement aussi, vous savez, parfois marquer un peu de distance, l'immense utopie de créer un monde nouveau. Moi, c'est ce qui m'a frappé en vous lisant.
Oui, alors cette utopie, elle tenait aussi lieu à la différence qui existait à l'époque entre l'Amérique et la France. Parce que pourquoi partait-on? On partait vers la France, vers les États-Unis, parfois pour l'Angleterre simplement, parce qu'on y trouvait ce qu'on ne trouvait pas en France, c'est-à-dire une liberté d'expression, une liberté d'invention et surtout une liberté sexuelle qui était très brimée en France à cause justement de la non-distribution de contraceptifs, notamment de contraceptifs féminins. Donc c'était ça, c'était la porte ouverte au plaisir, un plaisir dont on avait des échos en France à travers justement la musique, à travers les paroles des chansons, à travers le comportement, même l'attitude des musiciens, la liberté de se laisser pousser les cheveux, par exemple. Alors en France, on se laissait pousser les cheveux, on finissait au commissariat du coin et on se faisait raser la tête. Donc il y avait quand même...
Ça arrive souvent en Amérique aussi, quand on vous regarde de travers.
Alors, il y avait l'Amérique, oui, parce que l'Amérique, c'est pas des petits saints non plus. Hein. On arrivait dans un pays, quand même, d'abord en pleine guerre du Vietnam. Donc, effectivement, le FBI et la CIA et autres officines regardaient d'un assez mauvais œil se développer une contre-culture pacifiste, entraînant des milliers de gens, justement, en lutte contre le gouvernement, contre l'administration américaine, qui à l'époque était celle de Johnson. Et donc, oui, c'était au cœur de ce mouvement. Mais ce mouvement n'était pas nouveau. Je veux dire, il était l'héritier de la Beat Generation qui elle-même avait lutté contre le McCarthyisme, qui avait lutté contre l'Amérique du mercantilisme, du confort, le fameux cauchemar climatisé que dénonçait Henry Miller.
Oui, sauf que là, ça touche beaucoup plus de personnes que la Beat Generation. Voilà, c'est ça aussi l'aspect nouveau du phénomène. Mais alors, vous venez d'employer le mot « liberté » à l'indistère. Il est ambigu, parce qu'à plusieurs reprises, je vois, quand vous parlez avec les garçons, les filles, alors là, elles défilent, les filles. Il est toujours question de liberté. Et moi, j'ai eu souvent le sentiment d'être qui était aliéné à la drogue et aliéné à cette idée de lutter contre la société. Où est la liberté quand on est prisonnier de la drogue ?
Quel était l'usage de la drogue, d'abord, qui était fait ? C'était un usage qui n'était pas très différent de celui de gens qui, en France, boivent de bon vin au cours d'un bon repas et qui vont tranquillement vider une bouteille de Bordeaux ou de Bourgogne après avoir pris un apéritif et puis derrière ça un café et un pouce café. Bon, c'était cette dimension de plaisir. On parle de drogue légère là, hein, bien entendu. On parle.
Oui, mais il y a les deux dans votre livre.
On parle de drogue.
Oui, il y a les deux.
Voilà. Alors, ouais. Les autres drogues, il s'agit de quoi ? Bon, il s'agit surtout sur la côte ouest on ne parlait pas le mot drogue, ou alors il faut l'employer dans le terme américain, drugs, c'est-à-dire aussi dire médicaments. C'était des substances, c'était des pour ouvrir les portes de la perception. C'est-à-dire qu'on avait on effectuait cette démarche, qui était souvent des démarches accompagnées, d'ailleurs, par des gens qui étaient initiés à ces démarches de recherche personnelle, de recherche profonde, qui étaient à la fois intellectuelles, spirituelles, poétiques. Et utilisant, comme l'avaient fait avant nous, des gens comme Aldous Huxley, comme pas mal d'autres, comme les gens du Grand Jeu aussi, en France, Gilbert Lecomte, René Daumal et quelques autres. Donc on utilisait ces substances dans un but d'élargissement de la conscience et de connaissance, et pas encore, comme ça a été par la suite, dans un but hédoniste. Ce n'était pas notre propos.
On est très vite passé de l'un à l'autre.
Oui, pas moi.
Bon, ah non, je ne parlais pas exactement de vous là, je parlais plutôt de la société qui vous entoure. Mais j'en reviens quand même à ma marotte. Vous pensez avoir vécu au sein d'une société libre et libérée ?
Non, parce que...
Non.
C'est-à-dire que... j'ai même l'impression... Au moment où je vivais ces choses-là, c'est assez difficile d'essayer de se replacer dans les conditions de l'époque. Mais enfin, si on fait un petit effort de ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs tout au long de ce bouquin, c'est-à-dire de me replonger dans les conditions de l'époque et d'essayer d'avoir ce regard justement aujourd'hui sur ce que je pouvais avoir à l'époque, etc., la jouissance instantanée du moment, du présent, le merveilleux présent. Est-ce que on était conscient d'une liberté ? Non, on profitait, oui, certes, d'un élargissement. C'était plus relax, c'est vrai qu'il y avait, on pouvait, mais c'était pas exempt de petites misères, de manquer d'argent pour se nourrir simplement, et d'être obligé parfois de dormir dehors à la Belle Étoile, mais vraiment d'être un SDF. Donc. C'était pas du tout exempt de ce genre de misère. Et liberté, c'était pas le terme qu'on employait. C'était le terme qu'employaient certains fondamentalistes, si on peut employer ce mot, de l'esprit hippie. Donc, parce que tout de suite, c'est devenu aussi un truc d'école. Hein, où fallait faire ci, fallait faire ça. Donc, on retrouvait à nouveau l'univers des interdits et des obligations, etc. Ceux-là étaient les premiers à employer les termes freedom par-ci, freedom par-là. Mais autrement, on était quand même conscient d'abord de la situation elle-même, qui était une situation de guerre, quand même, encore une fois. C'était la guerre de, au Vietnam. Situation aussi de problèmes raciaux aux États-Unis, parce que c'est l'époque où, où sont arrivés les Black Panthers, durant l'été 1967, donc à Oakland. Et on connaissait un certain nombre de Black Panthers. On savait que ce sont des gens qui étaient assassinés par la police. Donc, on parle de liberté dans ce contexte-là, c'est quand même un peu hasardeux. On était proche aussi de gens qui se battaient dans les, sur le front syndical, les, autour de César Chavez, dans les champs de, dans les vignobles et dans les champs de la Californie centrale. Bon, donc, non, je pense qu'on était, dans une certaine mesure, plutôt engagés dans un combat de libération, mais on ne se sentait pas libre pour autant.
Beaucoup de baise, peu d'amour.
On a dit, a posteriori, quand on a réécrit cette époque avec beaucoup de révisionnisme politiquement correct, que la révolution sexuelle profitait surtout aux mecs parce que c'était eux qui en profitaient. Moi, je m'inscris en faux complètement là-dessus parce que les filles étaient très demandeuses aussi, justement. Et de pouvoir faire exploser le carcan familial, le carcan moral.
Oui, et puis la découverte du plaisir.
Et explorer.
La découverte du plaisir féminin, qui n'était pas une valeur qui était tout à fait reconnue auparavant. Mmh. Mais ma question concernait quand même l'amour, le vrai sentiment d'attachement à un être.
Ça arrivait.
Oui. On sent d'ailleurs dans les sortes d'envois que vous écrivez en italique, d'ailleurs c'est un des charmes de ce livre, de temps en temps, lorsqu'il y a un personnage, souvent féminin, mais également aussi des garçons, vous leur écrivez une sorte de lettre imaginaire, à moins qu'il y ait eu des lettres réelles, mais enfin, peu importe, là, comme on est dans la littérature, on ne va pas s'amuser à chercher ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et de l'ordre de la réalité. Et on s'aperçoit que vous, vous vous êtes attaché. Mais moi, j'ai pas eu le sentiment que les autres s'attachaient beaucoup entre eux, puisque l'échangisme était quand même monnaie courante.
C'est-à-dire qu'il y avait des drames passionnels, quand même. On pratiquait pas l'échangisme. L'échangisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire vouloir échanger. Ça s'est fait dans certaines communautés, parce qu'il y avait certaines communautés dominatrices, comme ça, enfin, avec un élément dominateur, en tout cas, qui donnait la marche à suivre, donc, où il était interdit de conserver un partenaire deux nuits de suite. Il fallait de toute façon faire tourner, etc. Mais bon, quand ça se passait, disons, de manière spontanée, naturelle, etc., c'est vrai que les rapports étaient très superficiels, hein, c'est une affaire entendue, mais il y avait des attachements très forts. J'ai eu plusieurs fois regretté d'avoir laissé derrière moi des compagnes et d'être revenu en France pour attirer par je ne sais quoi d'ailleurs, alors que je laissais derrière moi quelqu'un avec qui je me trouvais bien, avec qui j'aurais pu construire quelque chose.
La traversée de l'Amérique se fait à plusieurs reprises. Vous allez vite quand même, mais vous avez le temps de savourer les paysages, les grandes plaines, les montagnes, les déserts, la traversée des rocheuses.
Oui, parce que c'est une technique, ça, de livraison de voiture. Il s'agit de, quand on prend la voiture à New York, de foncer jusqu'au premier contrefort des rocheuses. Alors, en général, on se relaie au volant et on roule jour et nuit, pendant deux jours, comme ça, comme faisait Neil Cassidy avec Jack Kerouac dans les années 40. Et ensuite, à partir des rocheuses, on lève le pied, on prend son temps, on profite du paysage, on balade, on va au Grand Canyon, on va se balader dans le désert, etc. Et on essaie de livrer la voiture à temps.
Avec des variantes, d'ailleurs. Il y a un retour qui s'effectue depuis l'ouest vers l'est, à travers le Canada, pour monter jusqu'à Vancouver.
Ça, c'est en autostop.
Oui, parce que le retour se fait la plupart du temps par les moyens du bord. L'aller, vous convoyez des voitures, et le retour, il faut se débrouiller. Oui,
oui absolument. Oui.
Donc là, vous remontez toute la côte ouest des États-Unis vers le nord, jusqu'à Vancouver, et là, toute la traversée du Canada, Québec même, Montréal, je crois, et vous redescendez sur New York.
Et ça, je crois que ça a été certainement l'épopée la plus formatrice de ce que j'ai pu faire par la suite, parce que je suis parti de Vancouver, j'avais exactement $2 en poche. Et c'est une espèce de pari insensé, que j'allais traverser tout le Canada d'ouest en est et ensuite rallier New York où je ne connaissais personne avec mes $2. Et je suis arrivé à New York, j'avais $10.
Bravo, quel homme de cœur.
Non, c'est pas du tout ça, c'est pas la générosité des gens. Ils prenaient un stuff qui me glissait une enveloppe de temps en temps avec un peu d'argent pour me permettre de continuer. We'll be right back.
sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system.
Alain Dister, à vous lire, on prend conscience que assez vite, d'ailleurs dès 1968, quand vous êtes encore aux États-Unis, vous comprenez que la joie, l'enthousiasme, l'ardeur du début est en train de s'estomper.
Non, ça j'ai toujours compris dès le départ, si vous voulez, parce que j'avais ce passé africain, si on peut dire, et dès l'Afrique, dès l'âge de 10 ans, lorsque j'ai été confronté à cette différence énorme qu'il y avait entre le monde africain réel, c'est le monde de la brousse, des villages, et le monde colonial replié comme ça sur lui-même, déjà là j'avais eu cette lucidité de voir ces rapports entre les hommes. Et donc, aux États-Unis, la même chose. J'ai compris que certaines fois, il y avait des dérives, des délires, ou alors des retours masqués de l'autorité. Mais j'avais besoin, je crois, de m'abandonner. Besoin de m'abandonner pour pouvoir recevoir.
Vous aviez besoin d'y croire. Après tout, vous aviez largué les amarres, c'était pas pour vous planter.
Non.
Donc il y avait aussi le désir de se dire ça devrait marcher. C'est ce que j'apprécie d'ailleurs dans votre livre, c'est qu'il y a ce double mouvement. Mais c'est bien, c'est magnifique, on vit en communauté, vous avez même vécu avec le Living Theatre qui a rejoint votre communauté, tout ça est merveilleux, vous rencontrez des femmes magnifiques de différentes cultures. Et puis d'un autre côté, vous voyez aussi que le mur se fissure.
C'est-à-dire, je le voyais tous les jours. Je sortais quand j'habitais à San Francisco, par exemple, c'était au cœur. J'habitais sur Ashbury Street, donc au cœur de East Ashbury. Et quand je descendais sur 8th Street, où se passait toute l'action, si on peut dire, je voyais bien ce qui se passait. Je voyais bien la dégradation. Je voyais bien arriver ce qu'on appelait les drogues dures, c'est-à-dire qu'il y avait cette masse de jeunes qui arrivaient, comme l'œil écarquillé vers cette espèce de nouvelle Jérusalem à la William Blake. Et puis, c'était pas ça, en fait. C'était une sorte de territoire où venait se perdre, attiré là par je ne sais quel joueur de flûte de Hamelin, et il se retrouvait à peupler ce quartier, à peupler ces trottoirs de manière complètement dépenaillée, avec quelques a priori comme ça, où il est hippie, alors faut vivre pieds nus, faut manger macrobiotique, etc., faut prendre ci, faut prendre ça, faut faire l'amour.
Vous y avez tâté du macrobiotique, d'ailleurs.
Oui, mais j'en avais besoin pour nettoyer mon corps. Ouais. Et donc ces gamins étaient... provoquer un marché potentiel pour les dealers, pour la mafia, qui a trouvé là de quoi écouler, évidemment, les pires produits de la terre. Et donc, je voyais cette dégradation se produire sous mes yeux. C'est même pas de la lucidité, c'est du réalisme.
Alors, la question religieuse se pose. Grande influence des doctrines orientales. Une espèce de zen américanisé, ensuite un peu de Tibet américanisé. Mais dans votre cas, vous avez aussi rencontré des soufis qui vous ont marqué.
Ça a commencé par les bouddhistes, en fait. Ça a commencé, si on met à part mon éducation personnelle, du catholicisme de vieille famille, ça a commencé par le bouddhisme parce que j'ai rencontré des gens en France qui m'ont parlé du bouddhisme zen, là d'abord, puis ensuite d'autres qui m'ont parlé du bouddhisme Mahayana, et d'autres qui, de manière plus complexe et en même temps plus proche de l'esprit de cette époque, faisaient un rapprochement entre l'expérience psychédélique et le bardotodol, l'île des morts tibétains, c'est-à-dire que la mort, la renaissance, et ainsi de suite.
J'ai même rencontré une femme, Gloria, je crois, qui pratiquait l'amour tantrique.
Oui.
Donc là, on va retrouver sexe et spiritualité.
Oui, oui. Mais à l'américaine, ouais. Alors, bon, avec ce côté un peu très volontariste.
ça vous semblait un peu de gymnastique, si j'ai bien compris.
Oui, il y avait un ce côté. Bon, c'est évidemment, c'est touchant, mais je veux dire.
Voilà. Alors, vous, par rapport à ces courants spirituels, comment vous êtes situé ? Donc, de l'intérêt pour le bouddhisme, et puis, c'est aller plus loin ou c'est resté en surface dans votre conscience ?
Ben, une overdose de catholicisme m'a fermé à tout jamais, probablement, la porte des pratiques religieuses. Mmh. Et mais par contre, l'élan spirituel a toujours été là. Mais ça, l'élan spirituel, est-ce qu'il est dû à une question ou est-ce qu'il est inné ? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai toujours eu un intérêt pour ces choses-là. Bon, alors vous me parliez du soufisme. J'ai eu la chance, à la suite d'une très forte expérience personnelle, une très forte émotion personnelle aux États-Unis, en Californie, de rencontrer, j'avais besoin d'un éclairage, d'une explication. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était un maître confirmé, qui avait fait des études au Pakistan sur le soufisme. Et de participer à ces réunions et d'être initié au soufisme pendant le printemps 1968. C'est-à-dire qu'en mai 68, au lieu de balancer des pavés à Paris, je participais à des réunions de soufis dans le quartier des Mission à San Francisco.
Voilà. Et pendant ce temps, donc, le but de votre voyage était de faire des photographies. Mmh. Vous les avez faites, vous les avez publiées.
C'était plus un but à l'époque, hein. C'était plutôt quelque chose qui m'accompagnait. Le but était au début, puis après, bon, j'avais l'appareil photo, je prenais des photos de ce que je voyais autour de moi.
Vous en avez pris sans cesse, sauf à un moment donné où vous êtes dit, plutôt que d'être l'observateur, je tiens à participer. Donc là, vous avez mis votre appareil de photo de côté.
Mais ça, c'est de la faute au living,
voilà.
Si j'ose dire. Parce que quand on participait aux actions du Living Théâtre, notamment quand on se retrouvait à participer plusieurs fois à Paradise Now, la pièce, une grande pièce de théâtre, on se retrouvait d'un seul coup placé dans une position où il devenait très très difficile d'être simplement un observateur détaché.
Oui, d'être voyeur et acteur. Voilà. Il y a un moment donné, il faut choisir. Donc là, vous avez choisi. Cela dit, vous avez maintenant une collection, une des plus importantes de France, j'imagine, de toute cette période, de toute cette aventure.
Il y a peu de gens, c'est vrai, on fait des photographies à ce moment-là sur ce qui se passait.
Alors, qu'est-ce que vous cherchez à saisir ?
Souvenirs.
Non, un peu plus. Là, vous limitez votre choix à l'indistère. Mmh. Il y a quand même un choix esthétique dans le mouvement des choses, dans l'incongru, dans ce qui est étonnant.
Il n'y a pas un choix esthétique photographique au sens où dans les années 1960, on n'avait pas de culture photographique. Donc, il y avait un caractère très spontané à toutes ces images. Mais j'avais envie... D'abord, elle me servait de l'appareil photo comme un moyen de communication, un moyen de reconnaissance aussi, de reconnaissance de terrain, de reconnaissance d'un territoire social. J'avais besoin de faire des portraits de mes amis, de conserver une trace de tout ça. J'avais pas du tout le sentiment de vivre un moment historique. On savait jamais ce qu'allait être le lendemain. On vivait dans le présent, dans l'insouciance la plus totale. Donc on se fichait pas mal de ce qu'allait devenir.
Et donc c'est après que vous avez pris conscience que ça a eu une importance symbolique très puissante.
Oui.
C'est venu après, oui.
Oui, mais j'y étais encouragé en même temps. À la fois encouragé par certains qui me disaient, j'avais un ami notamment à San Francisco, on parcourait les rues de San Francisco en faisant des photographies toute la journée. Ça faisait partie, je ne sais pas, de notre vie quotidienne, comme d'autres écrivent tous les jours. Nous, on faisait des photos tous les jours. Et puis, il y en a d'autres que ça gênait, notamment les hippies, justement, purs et durs. Quand ils me voyaient arriver avec un appareil photo, ça les gênait. Ils me disaient, on te voit encore avec ton appareil photo, laisse tomber, rejoins-nous, vis, etc., arrête d'enregistrer.
Un pied dedans, un pied dehors.
Oui.
Dans votre cas. Mm. Oui. Et ça a été une attitude que vous avez toujours eue toute votre vie ? Parce que vous êtes photographe et vous êtes écrivain, vous êtes journaliste et vous êtes écrivain. Hein ? Ce va-et-vient. On s'engage, mais on fait autre chose en même temps.
Le pied dehors est... plus un problème d'attendance, ça permet de gagner sa vie. Le pied dedans, c'est rare quand on gagne bien sa vie avec quelque chose qui parle de soi, qui est avec une activité personnelle, qui parfois est clandestine d'ailleurs, plus ou moins. Donc il y a aussi cet aspect-là. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a souvent d'une attitude à l'autre, c'est-à-dire d'un engagement, de vivre les choses, et puis de prendre du recul et de les regarder.
Oui, et surtout le désir de ne pas être enfermé.
Permanent. Voilà. Complètement.
C'est ce que je sens dans tous vos écrits. Dès que le système s'installe, dès qu'on arrive dans des certitudes, on voit l'indistère prendre la tangente.
Tout à fait. Oui, oui. C'est à la fois une sorte de refus de l'autorité sous toutes ses formes, mais aussi de l'enfermement, comme vous dites, parce que, je ne sais pas, ça vient des bombardements quand on était dans les caves au milieu des années 40 et que les bombes sautaient tout autour. Donc j'ai ressenti une terreur.
Ça ne vient pas de votre karma et des vies antérieures,
oh là là,
telles que le racontaient dans la Californie les 60s. Justement, oui. Les 60s, votre dernier ouvrage, Alain Dister, publié aux éditions du Collectionneur, a pour titre « Couleur 60s » ou bien « 60s Colors ». Et alors, très peu de texte, vous me l'avez rappelé avec une sorte de gourmandise, le fait qu'il y a très peu de texte, les photos doivent vivre par elles-mêmes, avec cette originalité qu'elles sont montées souvent deux par deux. Et de temps en temps, vous avez une photo qui est en pleine page, c'est-à-dire qui prend la page de droite et la page de gauche. Mais la plupart du temps, deux par deux, avec bien sûr un jeu de correspondance de l'une à l'autre. Voilà. Alors, ce qu'on découvre, c'est l'importance des visages et l'importance de l'être humain. C'est un choix volontaire ou c'était vraiment ce qui vous fascinait?
C'est un choix volontaire et qui s'exprime de manière technique, puisque, par le biais d'une technique, puisque dans ce cas-là, j'utilise un objectif, un petit téléobjectif de 100 mm, donc qui me rapproche. Bien sûr, des visages sans avoir le nez dessus, c'est-à-dire sans déformation non plus, mais qui cadre beaucoup plus serré qu'un grand angulaire. Donc,
vous me répondez technique alors que ma question était presque plus d'ordre...
Ça en fait partie.
Oui, ça en fait partie, bien sûr, je sais. C'est d'ordre, je ne dirais pas spirituel, mais disons psychologique. C'est-à-dire qu'avant tout, ce qui vous a intéressé dans toute cette aventure, c'est plus les visages que les paysages.
Bien entendu, mais le téléobjectif n'était qu'un outil. Si les visages m'intéressaient, il fallait donc l'outil pour aller retenir justement ce qu'il y a dans ces visages, ce qu'il y a dans ces regards, ce qu'il y a aussi. Parce que je suis aussi attiré par l'attitude, ce qu'on appelle aujourd'hui l'attitude, d'ailleurs qu'on ne disait pas ça à l'époque, aussi le look, mais c'est la manière dont les gens sont habillés, par exemple. Pour moi, c'est important.
Et ça compte vestimentaire, beaucoup. Et d'ailleurs, vous rappelez dans votre livre, « Hippie Days », que c'était fondamental de se distinguer des autres par l'habillement.
Ça, c'est une idée qui est vraiment ancrée dans les années 60, qui est un petit peu héritière des années 50, des débuts du rock'n'roll, mais c'est vraiment ancrée dans les années 60, c'est on est habillé d'une certaine manière, on est coiffé d'une certaine manière, et c'est un manifeste.
Alors, en feuilletant ce livre, ce qui m'a frappé aussi, c'est une certaine modernité de l'approche, dans la mesure où vous utilisez beaucoup le flou, ensuite les photographes ont utilisé abondamment. Maintenant, on pourrait presque dire...
Ça, c'était accidentel à l'époque.
On pourrait presque dire que certaines photographies qui seraient nettes seraient mal vues par certains historiens de la photographie. Mais oui, oui et non. Il y en a que vous prenez en vitesse lente alors qu'un personnage est en train de marcher. Donc il y a peut-être aussi un choix esthétique.
Non, je crois pas. Il n'y a pas de choix esthétique. Il y a le choix simplement de vouloir cadrer quelqu'un en le suivant. Et si la vitesse était trop lente, ça a donné un flou. Mais il n'y avait pas une recherche de flou. Il n'y avait pas une recherche de construction. Dans les photographies que je faisais à l'époque, la seule chose que je veux faire, c'est ouvrir les yeux, capter cette scène dans ta beauté, dans ce qu'elle a qui me plaît, qui retient mon attention. Et c'est tout. Mais il n'y a pas d'a priori puisque je n'ai pas de culture photographique.
Oui. Et par la suite, alors, vous avez affiné votre esthétisme?
Oh ben bien sûr.
Oui.
Dans les années 80, 90,
2000. Voilà. Dans quel sens, alors?
Dans le sens où j'ai beaucoup étudié la photographie, son histoire, ses acteurs, fréquenté beaucoup de photographes qui m'ont, pour certains, influencé, et donc travaillé le langage photographique. Alors évidemment, ça c'est beaucoup moins innocent, parce qu'on fait une photo, on dit bah, « tiens, je suis en train de faire un douaneau » ou bon, je dirais pas un carte à boisson, c'est un peu prétentieux, mais enfin, bon, on a l'impression de faire une photo qui a déjà été faite par quelqu'un d'autre, mais en même temps, ça peut être un éclairage. Bon, si par exemple, et puisqu'on parle des photos des années 60, et que je fais aujourd'hui encore, là, je pars ces jours-ci en Angleterre pour ça, justement, je continue à m'intéresser à ces manifestations dans l'apparence, etc., de mouvements sociaux plus profonds. Donc, je fais des photographies, je continue de faire des photographies de jeunes, de mouvements de jeunes, etc. Bon, si aujourd'hui je fais ces photographies-là, évidemment j'ai ma culture photographique maintenant qui joue, et je me dis que si j'avais eu cette culture photographique à l'époque, j'aurais forcément été influencé par quelqu'un comme Diane Arbus, par exemple. C'était ce regard chirurgical, qui en même temps très compassionné sur les gens qu'elle photographie, mais qui décèle une espèce de vérité tragique au cœur des personnages. Et quand je fais des photographies aujourd'hui de punk, de rockers, de gens qui portent des tatouages, n'importe, c'est ça que je cherche à faire.
Oui, mais c'est pas forcément un gain, alors, parce que d'un côté, vous avez gagné de la culture, de l'autre, vous savez, peut-être, je dis bien peut-être, perdu de la spontanéité.
J'ai pas perdu de spontanéité, mais j'ai perdu de la naïveté.
Ouais. Et quand vous regardez les photographies d'aujourd'hui, vous les sentez supérieures à celles que vous faisiez dans les années 60?
Non, différentes. Ouais. Différentes, mais en même temps s'inscrivant dans une continuité.
Dans ce que j'ai vu de vous, Alain Dister, j'ai surtout vu du noir et blanc. Mais là, ce qui est publié aux éditions du collectionneur, c'est uniquement de la couleur.
Oui.
Vous vous sentez photographe de noir et blanc et de couleur?
C'est pas la même chose.
Non,
c'est
je
comme
sais,
un
oui.
jour vous allez boire de la bière et un autre jour vous allez boire du vin rouge.
C'est
un
peu. C'est votre réponse.
Cette disposition à faire de la couleur, on voit la couleur. Non, c'est une question de regard. Ouais. On voit la couleur. L'œil capte la couleur et donc un rapport d'harmonie de différentes teintes avec des dominantes. Et un autre jour, on voit l'essentiel du noir et blanc. Et la couleur est plus anecdotique.
Oui, donc peut-être que Alain Dister, artiste, s'exprime plus facilement avec le noir et blanc, comme la plupart, comme beaucoup des photographes français d'ailleurs.
Alain Dister, artiste, il a une formation de peintre. Donc,
D'ailleurs, en Californie, ou je ne sais plus, vous avez peint la craie sur le trottoir.
Oui, c'était
très... Je ne sais pas si des grands collectionneurs ont acheté des trottoirs entre-temps, mais et la pluie qui est tombée, les chiens qui sont passés. Alain Dister, écrivain, il y a une vraie recherche d'écriture, pas dans le sens sophistiqué, mais je veux dire, on sent que les chutes, les phrases, les compositions vous habitent quand on lit « Oh, Hippie Days ».
Oui. Oui, mais c'est que répondre. Je peux en tout cas vous parler de gens qui m'ont influencé, qui continuent de m'influencer et qui sont dans le texte, c'est-à-dire en version originale, en anglais, les grands auteurs de la Beat Generation. Donc,
on retrouve encore l'Amérique, là.
Oui, mais elle ne me quitte pas. Comme dit Kerouac, c'est « all that coming back to America », on revient toujours vers l'Amérique, et l'Amérique est au cœur de tout ce que je fais, aussi bien dans mes intérêts musicaux, dans mes intérêts littéraires, et même dans mes intérêts artistiques, parce que la peinture que je préfère, c'est la peinture new-yorkaise des années 40-50, un mouvement qu'on appelait les Irascibles, et c'est tout mon univers.
Oui, mais je vous ai connu très ouvert à d'autres cultures. Quand on parle ensemble de culture japonaise, de culture orientale, vous êtes aussi très compétent. Mais le socle reste l'Amérique.
Oui, peut-être, je ne sais pas, pour en dire deux mots, mais je ne me sens pas assez inspiré pour écrire sur ces cultures. Parce que ce qui nourrit mon écriture, et fondamentalement, finalement, c'est quand même la scansion. Rock, c'est quand même l'univers du rock, c'est quand même l'univers pas seulement musical, mais aussi l'univers lyrique du rock, donc Bob Dylan, des gens comme ça, Leonard Cohen, dont on a entendu une chanson tout à l'heure. Donc c'est cela qui nourrit mon écriture, et donc c'est forcément anglo-saxon.
Sans lassitude.
Oui.
Avec toujours du renouvellement.
Ah oui, bien sûr, parce que c'est une culture elle-même qui se renouvelle.
Thank you.
Ainsi se termine Fort Intérieur avec comme invité Alain Dister qui a choisi naturellement les musiques que vous avez entendues. D'abord First We Take Manhattan de Leonard Cohen par REM et actuellement Requiem for John Hurt par John Faye. Fort Intérieur, une émission d'Olivier Jean Thomas, préparée avec la collaboration de Catherine Denet, à la technique Alexandre Dang, réalisation de Malika Mesgache. Alors, le dernier livre de photographie d'Alain Dister, nous venons juste d'en parler aux éditions du collectionneur Couleur 60s. Et nous avons évoqué, et je vous recommande vivement cette lecture, parce que pour ceux qui connaissent, ils retrouveront des souvenirs, et ceux qui ne connaissent pas découvriront ce qu'a été cette période extrêmement riche, même si on n'en approuve pas tout ce qui est mon cas. « Aux Hippie Days », ce récit, « Les carnets américains 66-69 » aux éditions « J'ai lu ». Nous n'avons pas parlé de « Grateful Dead », mais enfin, ça a été un des groupes les plus importants, qui a été tout à fait mythique et qui a été symbolique de ces époques, des 60s, comme vous dites, des années 60, comme je dis, mais jusqu'aux 90s, jusqu'aux années 90, comme je dirais, puisque c'est un groupe qui a longtemps survécu et qui a la capacité de se renouveler. Et je voulais aussi vous signaler un petit livre qui me semble intéressant pour ceux qui ne connaissent pas bien ce domaine, ce qui était mon cas, donc j'ai pu le découvrir, Culture Rock, dans une petite collection des Essentiels Milan, publiée en 96, avec justement un glossaire, des petits résumés. Donc ceux qui ne sont pas extrêmement compétents, on va leur mâcher le travail grâce à vos livres. Et puis pour votre exposition, donc on peut aller la voir à Hong Kong, on peut faire un saut à Tokyo et puis peut-être plus tard dans d'autres pays, on verra l'étoile d'Alain Dister.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 mai 2006.